Ça, la sous-représentativité des femmes persiste aussi. Elles représentent 51% de la population française, mais ce sont les hommes qui squattent 66% de l'antenne.
Tous les jours.
Hey, salut Colin.
À partir de 17h.
Salut Maudouille.
5-7 boulevard.
Ça s'annonce énorme, hein, ce concert. Hein.
Sur France Inter.
Ah, et regarde, les gens sont de plus en plus nombreux, c'est hallucinant.
Ah, il y a du monde, hein, il y a du monde. Oh, il y a Frédéric Lodéon là-bas,
hey,
regarde.
Salut Fredo.
Bonjour.
Qu'est-ce que t'as comme instrument, toi?
J'ai un gros tuba.
Hein? Pourquoi j'ai que le triangle, moi?
Qu'à son truc. Eh, c'est qui le chef d'orchestre?
Ah, bah justement, ce soir, le chef d'orchestre à 17h chez François Bunel, c'est Jean-Claude Casadesus.
Ah, oui, bah nous, on est dessous.
Bah, on est dans la fosse, évidemment.
Attention, attention, ça va commencer, attention.
Bon, je vais quand même prendre le temps de dire ce qu'on fait à 18h. Hein.
Ouais.
On va évoquer le sort de 991 juifs dans la guerre.
Une pertinente démarche historique à découvrir.
Oui. Attention, c'est à toi.
Voilà.
5-7 boulevard. À retrouver tous les jours. Du lundi au vendredi à partir de 17h.
C'est un peu long maintenant,
ouais,
là,
non ouais, ça commence à être casse-noisette.
Ouais. On le fait?
Ah, on prend la main. Vas-y, je prends la grosse caisse. Sors ta guitare, Colin. Allez, c'est prêt.
Énorme. Je suis pas sûr que ça leur ait plu des masses quand même. Hein.
Ouais, mais leurs enfants vont adorer ça.
Ouais, ça me rappelle un truc cette réplique.
Ouais, t'as raison, Barty.
Et voilà le doc.
France Inter.
La différence.
15h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Qu'est-ce qui est blanc, qui tombe en hiver et qui finit par un dé? La neige, connard.
En 50 ans, la France a monté plus d'une vingtaine d'opérations militaires en Afrique. Souvent, ces opérations sont baptisées du nom d'un animal réputé pour sa force ou son habileté. Depuis l'opération Bulldog de Bizerte en 1961, la France a envoyé en Afrique le bison, le léopard, l'épervier, le barracuda, la raie manta et l'oryx. Et puis en 2002, ce fut l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Un internaute curieux s'est étonné du choix de cet animal fabuleux et chimérique pour une expédition africaine. La licorne est connue pour être très difficile à capturer, sauf en lui présentant une vierge au pied de laquelle elle vient se blottir. Ce n'est pas exactement le scénario que l'on imaginait pour nos armées tout de même. Mais dans certains bestiaires chrétiens du Moyen-Âge, on trouve également ceci. La licorne est si téméraire et hardie qu'elle s'attaque à l'éléphant avec son sabot dur et tranchant. Et celui-ci n'a aucun moyen de se défendre quand la licorne l'attaque. Elle le frappe par en dessous et l'éventre entièrement. Ah, alors là, on comprend mieux, puisque l'éléphant, c'est juste le symbole de la Côte d'Ivoire.
Bonjour à toutes les AMG de l'Ardèche du Sud. Eh bien voilà, rendez-vous vous est donné ce soir jeudi à 20h30 à Saint-Montant au Petit Bistrot pour un café repère. Qui aura pour thème violence et politique. Voilà, on vous attend nombreux à 20h30 à Saint-Montant au Petit Bistrot. Merci, au revoir.
Ouais Daniel, j'ai bien aimé ta réflexion sur le fait que Léopold II il soit très présent à Bruxelles. Il y a une cathédrale là-bas qui est magnifique. Enfin, c'est pas une cathédrale, c'est genre le Sacré-Cœur, quoi. Et d'ailleurs, le gars, il a conçu ça parce qu'il avait kiffé le Sacré-Cœur. Moi, franchement, c'est une des églises que j'ai vues le plus belle, quoi. Mais bon, ça n'empêche que c'est Léopold II qui l'a fait. Et je voulais dire qu'en France, on a le même problème avec Napoléon Ier. Tu comprends, toi, que à Paris, c'est tout à la gloire de Napoléon, quoi. La gare d'Austerlitz, l'Arc de Triomphe, toutes les avenues autour des Champs-Élysées, l'avenue de Wagram, de Friedland, d'Austerlitz, tout ce qu'on... Ah bon, moi ça m'exaspère, quoi. Parce que voilà, tout le monde dit, ouais, Napoléon et tout, mais Napoléon, c'était un empereur, c'était un dictateur, quoi. Le mec, il a mis l'esclavage et tout. Voilà, moi, je comprends pas que les gens, ils adorent Napoléon, quoi. Allez, salut.
Bonjour, Daniel, bonjour toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, bonjour aux AMG. C'est génial, vos reportages sur le Congo, je trouve ça génial, ça m'a appris pas mal de choses. Je voulais juste rajouter une information, parce que vous avez parlé du transport du coltan et des matériaux, des pierres précieuses, de tout ça, par des compagnies de transport appartenant à Vincent Bolloré, mais je pense que, bon, vous le savez, les amis le savent, mais je pense que c'est important de le rappeler, que tous les ports africains, du continent africain, ou presque tous, appartiennent à des compagnies privées. Toutes s'appartiennent directement ou indirectement à Vincent Bolloré. Ça, je pense que c'est très intéressant. Voilà.
Bonjour, l'équipe de là-bas, si j'y suis, et bravo pour avoir invité André Guichawa. C'est le principal chercheur français sur le Rwanda, mais on l'entend pas beaucoup, sans doute parce que ses écrits sont un peu compliqués, de la guerre au génocide, le livre, mais sans doute aussi parce que ses analyses ne correspondent pas aux visions manichéennes dominantes, notamment sur le rôle de la France. Je vous signale sur le sujet que la seule personne qui ait fait une thèse sur la France au Rwanda, c'est Olivier Lanotte, un chercheur belge. Ça s'intitule « La France au Rwanda », le livre qu'il en a déduit. C'est publié aux éditions Peter Lang. Et sur la question du génocide, c'est bien aussi qu'enfin, il y a une radio nationale qui dise que, à travers votre émission, qui dise que le tribunal pénal international a conclu à la non-préméditation avant la chute de l'avion de ce drame. D'où l'importance de l'enquête sur l'attentat. On espère que ça donnera quelque chose au niveau du juge Trévidic, puisqu'on a entendu que Guichawa considère que c'est le FPR, donc c'est quand même considérable comme information, qui est responsable de l'attentat. Quant au Congo, je vous recommande le livre de Pierre Péan, Carnage, où on voit bien le rôle d'un agent de la CIA, responsable de l'USAID, dans l'aide logistique apportée à la guerre et à l'exploitation du pays par le Rwanda essentiellement, quoi. Pour le diamant, c'est surtout Israël. Et sur la suspension des autorisations de creuser au Kivu, un ami journaliste rwandais me dit que c'est Kabila qui fait pression sur le Rwanda pour essayer d'avoir un peu plus de retombées, c'est-à-dire un tant soit peu de retombées pour le Congo. Voilà, je vous salue.
Merci, je vous salue aussi, chers AMG, vous le voyez, à travers ce message et puis d'autres que nous diffuserons dans les jours prochains, évidemment qu'il s'agit d'un sujet très sensible et qui depuis longtemps passionne un nombre, faut reconnaître assez limité, mais passionné en tout cas, d'observateurs et de commentateurs en France sur le rôle de la France dans le génocide du Rwanda, sur les livres, deuxième livre de Pierre Péan sur ce sujet qui vient de sortir et qui s'intitule Carnage, sur l'association Survie, etc. Alors on reçoit beaucoup de mails et de commentaires dans tous les sens. Je tiens à apporter quand même là-dessus quelques précisions. Il n'y a pas un moment ni un mot dans les émissions que nous vous avons présentées qui remet de loin ou de près en cause l'existence du génocide des Tutsis de 1994. Je rappelle que là-bas, si j'y suis, y était et a, en fin mai et début juin 1994, proposé une suite de reportages sur ce sujet, de même que l'année suivante en 1995, de même que l'année suivante en 1996, etc. Donc il n'y a pas eu, dans les émissions récentes, le moindre mot remettant en cause l'existence de ce génocide. Premier point. Second point, André Guichawa, qui est un spécialiste de cette région, dans l'entretien qu'il nous a accordé autour de son livre, effectivement, a pointé la responsabilité, selon lui, de Paul Kagame et du FPR concernant l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, à bord duquel était également le président du Burundi et l'équipage français. Mise en cause, donc, par André Guichawa. Deuxième point, ça ne veut pas dire pour autant, et il l'a bien précisé, que Guichawa considère que Paul Kagame est responsable du génocide des Tutsis du Rwanda. Absolument, ça n'a pas été dit dans cette émission. Autre point concernant les massacres perpétrés dans ce qui était à l'époque le Zaïre contre des Hutus, des populations Hutus, d'ex-génocidaires, etc. Ce qui a été dit à plusieurs reprises dans cette émission, c'est ce qui figure dans le rapport des Nations Unies qu'on appelle le mapping, publié il y a très peu de temps, fin septembre, et qui indique qu'il se pourrait que certains actes puissent être considérés comme des actes génocidaires par une juridiction internationale. Voilà ce qui a été dit dans cette émission. J'y insiste parce qu'on reçoit des mails enflammés qui ne tiennent pas compte de ce qui a été dit, donc qui, à mes yeux, n'ont pas de valeur. Pourquoi cette passion ? Eh bien, c'est que depuis 1994, et dès la prise de connaissance de ce génocide, je rappelle, entre 800 000 et 1 million de victimes en l'espace de 100 jours, dans l'indifférence générale, dans l'indifférence de la communauté internationale qui voyait les choses se dérouler sous ses yeux, presque aussitôt, il y a eu une analogie qui a été installée entre le génocide des Tutsis et la Shoah. Et ça a permis au pouvoir, au Rwanda, d'accéder à une impunité, une immunité totale par amalgame confusionnel, bel et bien confusionnel. Ça a permis de justifier l'invasion du Zaïre et les massacres qui s'en sont suivis. Ça a justifié un autoritarisme radical à l'intérieur du pays, la répression des opposants, etc. Et il est assez curieux de voir que cette même analogie a été adoptée par nombre d'observateurs ou de Français de toutes sortes, passionnés, toujours passionnés aujourd'hui par ce sujet, qui ne tolèrent aucune espèce de critique et qui aussitôt qualifient ces critiques de révisionnisme, de négationnisme, et qui emploient un mot très particulier qui est le mot nauséabond. Et ce mot nauséabond, c'est le mot qui est utilisé lorsqu'on veut suggérer certains révisionnismes, certains antisémitismes, etc. Donc il y a une analogie là qui, à mon avis, est simplement fausse, anachronique et qui ne correspond pas à la réalité. Je voulais faire ces petites mises au point. Enfin, c'est pas des petites mises au point. Ce sont des mises au point qui mettent en cause notre travail, notre rigueur et la compétence ou les connaissances qu'on peut avoir de ce sujet qui, bien sûr, vous avez compris, nous passionne tout particulièrement, comme pas mal d'entre vous. Aujourd'hui, on continue ce reportage, ce voyage au Nord Kivu. On va aller à Walikale, une ville située à 50 minutes d'hélicoptère avec les Nations Unies de Goma. Et là, on va aller dans un endroit particulièrement souffert récemment, Luvungi, où au mois d'août dernier, entre la fin juillet et août dernier, en l'espace de 4 jours, des dizaines et des dizaines de femmes de ces villages ont été violées. Alors on a voulu savoir comment, pourquoi et rencontrer ces femmes et ces villageois. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Allô, bonjour, c'est Philippe, j'habite à Grenoble. Je suis absolument scandalisé par une lettre que j'ai reçue hier de la clinique Beldon à Grenoble, qui est une clinique privée, qui a très bonne réputation. Beaucoup d'enfants naissent là-bas. Il se trouve que j'ai un cancer et que je suis allé faire un certain nombre d'actes chirurgicaux là-bas, une biopsie, et à cause d'une erreur administrative, on me réclame une certaine somme que je paye sans aucun souci. Mais ce qui m'a profondément choqué, c'est que l'entête de la lettre était service client, alors que je croyais que j'étais un patient, quelqu'un qui souffre. Eh bien, à mon sens, cela en dit long sur l'évolution de notre système de santé et l'avenir qui est réservé aux malades et à la médecine à deux vitesses et toutes les joyeusetés que nous prépare ce gouvernement et peut-être ceux qui suivront. Merci beaucoup.
Salut Daniel, voilà, petite dépêche AFP de ce matin. Paris, le porte-parole du PS, Benoît Hamon, a estimé mercredi que les prières de musulmans dans la rue constituaient des situations qui ne sont pas tolérables beaucoup plus longtemps, prônant une négociation avec un calendrier dans le but de les faire cesser en trouvant des lieux de culte. Alors, je voulais vraiment remercier avec ferveur Benoît. Merci aussi à toi Marine d'avoir lancé ce débat. Vous allez peut-être enfin pouvoir mettre fin à ce cauchemar quotidien qui dure depuis trop longtemps. Ce cauchemar qui a commencé en 2002. Dans ma classe, elle était assise à côté de moi en cours de maths, cette fille qui portait le voile, cette musulmane. Donc à partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire de terribles cauchemars, je voyais des terroristes, des barbus partout dans mes rêves. Bon, bah, c'était terrible. Alors, un peu plus tard, j'étais adolescent, j'avais 13-14 ans, je passais dans la rue devant une librairie, et j'ai vu en vitrine un magazine avec une fille à poil en couverture. Alors à partir de ce moment-là, je suis devenu un véritable pervers, quoi. C'était terrible, j'étais incontrôlable. Plus récemment, il y a une femme qui est venue sonner à ma porte avec, elle avait dans les mains un petit prospectus qui m'expliquait la Bible, quoi. Puis, elle m'a parlé de Dieu, elle me disait oui, voilà, elle me parlait de Dieu, elle me parlait du christianisme. Donc je l'ai viré à grands coups de pompe et j'ai fait encore de terribles cauchemars et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Bon, bien sûr, tout ça, c'est des grosses conneries, hein. La petite fille musulmane dans ma classe, c'est devenu ma petite copine. Ce magazine porno que j'ai vu, bon bah je l'ai acheté et puis bah ça m'a fait découvrir un peu la sexualité. Et puis ce prospectus sur la Bible, bah, je l'ai lu pour m'informer un petit peu. Et puis voilà, je l'ai balancé parce que bon, ça correspondait pas du tout à mes idées, mais au moins je me suis informé, quoi.
Salut Daniel et toute l'équipe. Dans le Gard, dans les Hautes-Cévennes, nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi 16 décembre à 19h, au Café Repère de Genelac, Bar de l'Union, chez Marilyn. Rejoignez-nous.
Mes maigres connaissances en hindi me disent qu'il y a trois civils qui vont monter dans le transport de marchandises, le convoi militaire qui part de Goma à Waikale.
On est sur l'aéroport militaire des Nations Unies de Goma. Et on va, si tout se passe bien, parce que rien n'est simple, s'envoler pour Waikale, une ville qui est au nord-ouest de Goma. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'autour de nous, on parle en hindi, on parle en congolais. Alors les langues locales, c'est-à-dire essentiellement swahili, mais aussi le français, on parle espagnol, on parle toutes les langues, c'est les Nations Unies. Et on va, si tout se passe bien, donc embarquer.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassi, j'y suis avec Guy Van Til, Congo, Kivu, Katanga, ce magnifique gâteau africain.
Voilà, on arrive à Waikale, après 50 minutes à bord de cet hélicoptère. J'ai l'impression que c'est le même qu'on avait pris en Afghanistan. C'est des hélicos de l'armée rouge, évidemment, datés du temps des soviétiques. Hein. Énorme machin. Et à bord, c'est assez extraordinaire parce que bon, les pilotes sont ukrainiens. L'hélico est siglé Nations Unies, mais il doit être russe. Et puis les bidas, c'est des bidas du Bangladesh, de l'Inde. Et puis, il y a aussi des Congolais, des gens du coin. Et tout ça, ça se mélange. Et donc, quatre coins, quand même, de l'aéroport, qui n'est rien d'autre qu'un terrain de foot. D'ailleurs, regarde, il y a des buts. Ouais. Là-bas, il y a même des tribunes. Il y a quand même les casques bleus qui surveillent la piste aux quatre coins.
Voilà. Le paysage n'est pas du tout le même. Hein.
Ah non.
Et la température non plus.
C'est plus humide et plus chaud qu'à Goma. Et c'est la jungle. Quand on me dit, oui, les gars se sont repliés dans la forêt, où on fuit à travers la forêt et ils sont morts de faim et d'épuisement. Rien qu'en regardant la forêt qui nous entoure, on comprend.
Waikale, une région très chaude, très névralgique au cours de toutes ces années dernières, notamment au cours de la guerre de 98 à 2003,
mais qui est resté un endroit très névralgique. Pourtant, jadis, c'est là qu'on arrivait quand on voulait aller rendre visite aux gorilles de la forêt qui étaient à l'époque, avant le génocide, 17 000 et qui aujourd'hui ne seraient plus que quelques centaines, même si à nouveau les gorilles prospéreraient. Mais c'est pas le but de notre visite, c'est dommage d'ailleurs parce que ça pourrait être tout à fait passionnant, mais c'est pas le but de notre visite. On vient là dans cette petite ville voir un peu comment on travaille, comment les creuseurs travaillent dans cette région. Et puis, on va aller, je l'ai dit, à Luvungi, où il y a peu de temps, je l'évoquais en commençant, ont eu lieu des scènes épouvantables de viol. 350 personnes, dont 290 femmes environ, en l'espace de 4 jours, ont été violées. C'est hélas pas un cas isolé. On estime qu'en 2006, pour la seule année 2006, c'est Margot Wallström, émissaire des Nations Unies pour les violences sexuelles, qui l'a déclaré devant le Conseil de sécurité pour 2006, dans le seul Sud Kivu, on aurait compté 27 000 viols. Le viol est un moyen de guerre, un moyen de détruire des femmes, bien évidemment, mais aussi des sociétés entières. C'est une vieille histoire que le viol comme arme de guerre, comme arme de destruction par l'intime, par le sacré. Et là, ça se pratique dans cette région qui pourtant est sous, en principe, le contrôle de la MONUSCO, c'est-à-dire des Nations Unies. C'est une mission de paix ambitieuse que celle de la MONUSCO dans cette région. Entre 17 000 et 20 000 hommes sont présents sur le terrain et pour la sécurité des habitants. Et voilà, ces choses-là se produisent quand même. Et les responsables des Nations Unies déplorent leur impuissance et leur insuffisance. La région est une région très tendue, de conflits longtemps entre le CNDP, c'est-à-dire les forces armées sous la direction de Laurent Nkunda, alliées avec le Rwanda d'une part, et d'autre part le FDLR, c'est-à-dire unité militaire, bande armée comme on voudra, liée avec les anciens génocidaires du Rwanda, les Inyeramwe et le Hutu Power. Aujourd'hui, le CNDP de Laurent Nkunda a réintégré l'armée du Congo. On doute un petit peu de l'efficacité de cette réintégration, mais toujours est-il que c'est la situation présente au moment où nous arrivons. On va voir que le FDLR est encore très actif dans la région, très redouté dans la région, puisque c'est le FDLR qui serait responsable des viols massifs perpétrés sur ces femmes et ses enfants aussi dans le village où nous allons. Donc tension dans cette région et suite, interminable suite des métastases de ce génocide et suite et perpétuation à cause de la présence des mines et l'exploitation des mines de coltan. Nous y revoilà puisque ces unités armées se battent entre elles pour le contrôle de l'exploitation minière, dont le coltan, dont ce minerai qui est présent, et oui, dans nos portables et dans les machines qui permettent aujourd'hui de porter ma voix jusqu'à vos oreilles. C'est jusqu'à 16 heures. C'est là-bas, si j'y suis, les veines ouvertes de l'Afrique noire.
Es-tu celui dont on dit que la terre, elle berce l'humanité. Peut-on considérer comme aîné l'ex-colonisé, rôti au rang de cadet, handicapé, trop assisté par la communauté. Celui qui est toujours dépendant des bons vouloirs de l'Occident pour faire avancer ses propres plans. Les tyrans qui martyrisent son peuple au point d'en faire de réfugiés sur leur propre village. Celui qui n'a rien retenu, milliers de morts, des Hutus et tout civils, ont fait meilleur score au Congo. Fils de celui qui a fait la guerre des tranchées, qui n'était pas la sienne, mais s'est fait pisser pour avoir réclamé un digne salaire. Fils des tirailleurs, au-delà de tout cap, l'essence profonde combat de Madiba, Mandela, Cap. Les discours des chrétiens d'Ovira, Cap. La démarche d'Aminata, Traoré, Kout. La voix de Myriam Makeba, la lutte de la Guidoubé, l'esprit de Bob Marley, l'engagement d'Alex Dende. Pourquoi l'art doit aller en guerre? Pourquoi le passe doit rester clair? Pourquoi la démocratie en boit un goût de sucre amer? Es-tu l'intello, celui qui a tout sur Victor Hugo et rien sur Che Comte Diop? Es-tu l'idiot qui tout gomme? Es-tu celui qui, au lieu de compter ses pertes, faire un travail de mémoire, c'est bien sec, l'aura dû être téléporté. Si t'es-tu pour ne pas comprendre l'inéquation entre beaucoup de matières premières et le poids de continuant à l'OMC. Es-tu celui qui a ratifié le TNV, celui qui a genou implore de faire partie de PPTE, celui dont le fils mouche plein la bouche est exhibé, réclame charité, pourtant c'est le fruit politique d'austérité. Es-tu celui qui exporte minerais RS, en retour importe de armes et dettes, celui miné par si la tuberculose de peste. D'autant moderne, celui qui de nos jours crève encore de lèvres, celui qu'on entube le corrompu, celui qui se taille des constitutions et vite truc les élections, celui pour qui la guerre reste une option, mécontent, fomente de rébellion, viole pas mes gosses, prend nos gaz de population. Es-tu celui qui à tout prix veut siéger au conseil de sécurité pour avoir trop rendez-vous lui? Es-tu celui qui a créé NEPAD sans idée juste de comment le financer aujourd'hui se retrouve en panne? Au point mort, OUA, ancré UA pour le continent, se déshabiller Saint-Paul pour Sainte-Anne. Pas de différence pour les Africains, aucun impact sur l'existence. Pire pour créer bonheur, en tapouer leur impuissance. Aux frontières, barrières, visa, tracas, méfiance, tribal, repli national, violence. Afrique, Grèce, illusion pour beaucoup, rêve et fiction pour certains. Gagne pain quotidien d'Ozin, pour les autres, un zoo, bac. La peau à ciel ouvert, caché au prochain épisode. Exil et exode dans l'esprit de chacun de ces mondes. Es-tu ce que tu crois que tu es? Celui que tu es ou celui que tu es? Es-tu ce que t'as voulu être? Ou bien ce que t'as voulu omettre? Dis-moi qui es-tu?
Alléluia. Alléluia. Alléluia aux Chinois qui ont construit cette route sur laquelle nous roulons depuis au moins 20 minutes. Heureux comme tout, ça fait des semaines, des jours en tout cas, qu'on se tortille le dos sur des chemins tordus, défoncés. Et là, une route magnifique, une route chinoise. Qui nous emmène de Walikale.
Walikale vers Osukari, donc c'est à peine 40 km, consulté par les Chinois.
Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire sur cette route, c'est ces traces noires là qu'on voit au sol. Et ça, c'est des avions qui se posent sur cette route.
Oui, bien sûr. Vous savez, à Walikale, il n'y a pas l'aéroport. Et quand vous voyez ici sur la route, ce qui est l'avion atterrit, des petits porteurs là qui atterrissent sur cette route ici.
C'est-à-dire que le transport de minerais, et on peut dire le trafic des minerais, se fait ici, sur cette route. Les avions, les Antonov arrivent ici, pilotés souvent par des pilotes russes ou ukrainiens, qui viennent sur cette route pour charger des sacs de minerais.
Voilà. Il faut préciser que depuis qu'on a suspendu l'exploitation minière dans cette région, tu vois maintenant on peut facilement traverser cette route. Oui. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. Il y avait... On parvenait à fermer la route des deux côtés pour que... Les gens ne se passent pas tamponnés par des avions.
Par les avions. Quand ça marche, il y a combien d'avions qui atterrissent sur la route chaque jour?
20 rotations par jour.
Il y a 20 avions chaque jour qui se posent sur cette route.
20 rotations par jour.
C'est-à-dire que 20 fois par jour, on interrompt la circulation. Alors nous qui étions en train de dire « Alléluia, Alléluia, les Chinois !» d'avoir fait une si belle route. Sauf que la route, elle est interrompue 20 fois par jour pour que les Antonov qui viennent chercher les sacs de minerais, atterrissent sur la route.
Ouais. Et comme vous le savez, c'est par avion, c'est des tonnes.
Deux tonnes. Et il y a des accidents de temps en temps?
Les accidents ne manquent pas. Et par exemple, là où nous étions, oui, bien sûr, il y a eu des maisons qui ont été touchées, détruites et endommagées.
C'était quand cet accident?
Il y a plein de ans.
Et l'histoire des pilotes qui avaient été enlevés, c'est ici?
Oui, cela s'est passé deux fois, c'est-à-dire qu'autour de cette piste, il y a des groupes armés, des Maïmaï, qui avaient attaqué l'avion. Ils sont partis avec les pilotes dans la forêt pendant près d'une semaine. La première fois, c'était au mois de juin 2010. Deux mois plus tard, c'est-à-dire en août 2010, il y a deux autres pilotes qui ont été emportés, dont un Russe et un Congolais, cette fois-ci dans la forêt profonde, presque un mois, qu'ils ont été détenus par le milicien Maïmaï. Et ils s'attendaient à ce qu'on puisse leur donner l'argent avant de pouvoir libérer ces otages.
Bon. Nous, ça risque pas de nous arriver parce qu'on ne vaut pas cher.
Ils savent très bien, non mais c'est vrai, ils savent très bien les Maïmaï. Les Maïmaï, ils sont pas idiots. Ils savent très bien que la direction de France Inter ne donnera pas un sou pour nous.
Oui, bien sûr.
Tu vois, on ne vaut rien du tout. La France Inter leur dira, mais gardez-les le plus longtemps possible. Enfin bon, tout ça c'est pour dire alléluia, alléluia, merci les Chinois.
Ah oui, d'accord, c'est ça.
Allez, on repart.
Ce sont les Chinois.
Ouais, est-ce que les concepteurs de ces petits avions soviétiques, oui, les Antonov, on aurait pu imaginer un jour que ces avions serviraient au transport de minerais quelque part dans le Congo, quelque part dans le Kivu, en tous les cas. Ces flottilles de petits avions appartenant à des Russes, à des Ukrainiens sont utilisés, vous le voyez, pour le transport des minerais. Alors on continue la route de l'autre côté de Walikale en direction de Luvungi et là on est dans des zones extrêmement tendues, des zones rouges où les habitants sont en butte à toutes sortes de raquettes, de violences, de toutes sortes de la part des bandes armées qui sont dans la forêt. Quand on dit forêt, c'est pas la forêt de Rambouillet, vous imaginez bien. C'est des forêts très denses, très épaisses, dans lesquelles il est très difficile de s'aventurer, de manœuvrer et qui constituent bien sûr de formidables cachettes. C'est dans ces forêts que se trouvent les FDLR, ces fameuses unités militaires dont je parlais, et qui vivent sur l'habitant, qui vivent en raquettant l'habitant, mais aussi en pillant la région où l'on trouve donc ce coltan et aussi quelques mines d'or dans la région. On va voir que on incrimine très souvent la présence de cet or dans ces viols, parce que, et ça on ne l'a pas vérifié, c'est difficile à vérifier entre les mythes et les réalités, on dit que les femmes cacheraient des petits morceaux d'or à l'intérieur de leur sexe, de façon à les cacher, bien évidemment, et que ce serait l'un des motifs de ces viols. Je pense que c'est l'un des motifs, peut-être, j'en sais rien du tout, on n'a pas pu vérifier, les renseignements sont très contradictoires, on dit non, c'est des fantasmes, on dit non, c'est des réalités, on n'a pas pu savoir, peut-être qu'il y a des experts qui pourront nous le dire, et des expertes plutôt, mais là, on a recours à ce moyen qui est le viol massif. Ça s'est fait pendant le génocide du Rwanda, ça c'est une vieille histoire, si vous vous souvenez de cette toile fameuse qui est l'enlèvement des Sabines, qui est un thème très connu de l'histoire antique, on voit que la femme est la récompense du guerrier. Pillage et viol vont de conserve, on a eu ces scènes épouvantables récemment encore dans notre histoire française, pendant la libération de notre pays par les troupes américaines, par exemple. C'est des choses épouvantablement ordinaires. Sauf que là, il y a quelque chose de systématique qui vise à détruire des sociétés par leur intimité et par ce qu'elles ont de plus sacré. Parce qu'on va voir que ces femmes, qui sont évidemment les piliers de ces sociétés, les axes, et comme on dit, les poteaux mitants, comme on dit en Haïti, de ces sociétés, se trouvent déconsidérées, se trouvent dévalorisées, et c'est
toute la société qui s'effondre, ces sociétés villageoises, qui par la suite s'effondrent, on va le voir, parce que leurs hommes les répudient, elles n'ont plus de valeur, elles sont dégradées humainement, et c'est donc ces sociétés qui s'effondrent. C'est une autre forme de destruction, on pourrait dire, par l'intérieur, par le sacré. Et beaucoup de ces viols massifs, 235 femmes, 13 hommes, 52 filles et 3 garçons, 303 civils victimes de viols entre le 30 juillet et le 2 août dans une suite de 13 villages disposés le long de cette route. Beaucoup sont venus, des journalistes, des experts, des Nations Unies, des organisations non gouvernementales. On a voulu quand même aller voir avec Guyves et notre ami Jacques, et puis un journaliste local qui nous accompagne, qui s'appelle Fiston, c'est son prénom. On a voulu voir où ça en est, justement après le passage des médias, des experts, de toutes sortes. Et là, on n'a pas été déçus à l'arrivée.
On a pas de problème. On a pas de problème. On a pas de problème.
On est à Lumungi et on a un accueil un petit peu sec. Les gens sont très remontés parce que depuis les viols de fin juillet, début août, en 4 jours, il y a eu des viols massifs ici. Mais depuis ce temps-là, des humanitaires sont venus, des journalistes sont venus, des autorités sont venues. Et les gens sont très furieux parce que rien n'a changé. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, chef ?
Je m'appelle Safar Nkuba.
Voilà, et vous êtes très en colère.
Wanakuya tu hapa ni kukamata madone, majina yetu inaenda bulaya, bitu yote inaenda bulaya, hakuna kitu yenye tunabenefisie.
Nous sommes en colère parce que il y a beaucoup de gens qui viennent ici prendre des données. Nos noms sont partis en Europe, en Occident, mais on ne voit pas de retombées.
Alors à partir ya pale tunakuya kama bale bazungu wako nakuya hapa kuarishire kwa majina yetu, kwa maintere yetu, na hakuna kitu sisi tunapata.
Nous avons constaté que finalement, les Blancs sont en train de s'enrichir sur notre dos, et ça, il n'y a rien que nous parvenons à obtenir en contrepartie.
Si preve sa ville tunaona amsi na kuya hapa jana. Batu wanakuya hapa wanapokea kopo moja manjegeri. Nyumba iko na batu 12. Est-ce qu'il est anafanya ni kitendo ya kusema bali kwa tusaidia au anakuya tudanganya juba tu bénéficier.
Ya l'IMC qui a amené un gobelet de petits pois hier. Un gobelet pour 20 personnes. Est-ce que ça c'est vraiment une façon d'aider les gens?
IMC, c'est une agence de USAID, c'est une agence
des... C'est une organisation appuyée par USAID. USAID, c'est l'agence de développement américaine.
Bon, nigisi mnye mwana bayuwa. Si tu nabayuwa sa vile, ni ONG société mwa yenye nipache kwe hapa. Kwa kutusigilia peple uruma kusudi jidone kutusaidia. Mais tunakuta ni ka contraire, haiko ile yenye tunawazia njoo nyi balifanya.
L'IMC, en fait, c'est une ONG qui est venue ici, mais on pensait qu'elle allait nous aider, mais rien du tout. C'est comme si on prenait de la soupe, on la fait passer sur la bouche d'un enfant, et puis on dit, voilà, regarde cet enfant, il a mangé, alors qu'il n'a rien mangé. On a seulement fait passer de la soupe autour de sa bouche.
Est-ce que vous avez des autorités gouvernementales qui sont venues?
Bon, comme si... Mkubwa wa zone hakufika tena naye hakukua, hakujienkete na vile, hakujidone kwenda kutuangalia magumu yenyewe iko hapa. Sa vile, kurejo, hatukupata watu wa kwenda kukamata defense ya kuangalia shida yetu, mpaka hivi leo, hata tungali tu hapa deja magumu yenyewe si peke tunajigere. Na ba soda hakuna hata kuenda kutukamatia defense mpaka hivi leo hakuna hata mwaya defense ya kututilia ba soda juu tuchungwe. Comme si tunakosa kama sie ku gouvernement tulifanyaka nini Ruvungi ilifanyaka nini?
On n'a pas vu une seule autorité congolaise venir ici, pas même l'administrateur territorial pour venir nous disons juste présenter les condoléances. Il n'y a même pas de militaires pour nous protéger et donc nous sommes en train de demander ce que Ruvungi a fait à ce monde pour qu'on puisse nous sacrifier comme ça.
Et la MONUSCO.
Bon MONUSCO iko huko inachunga. Mais déjà bali tuletea MONUSCO juu kama te défense ya mugini ya Ruvungi. Jusqu'à mpaka le masiku yote tangia bali baleta batuchunge hapa. Banatia motive ya kutoka hapa banaenda hamia Binyampuri. Saba na hama Binyampuri ni kusema sasa sije banatudelese, banakuana kuya sasa saa moja hapa kisha ile nuit yote tunaipasse si benyewe tunajisurveiller.
Quelquefois ils arrivent ici, peut-être pour une heure ou deux heures, c'est fini et puis ils rentrent.
Et la nuit, nous la passons, nous seuls dans ce village, et donc ce qui ne nous sécurise pas du tout.
Parce que vous redoutez de nouvelles attaques.
Biokuko tendance. Parce que banasema kuko hapa bitu mingi binyeli lifanyikaka, à partir ya ile violence yenye lipokuwaka mwe mugini. Mupaka sa ibeko andute, ya kusema kama, batajikaza bafanyi sasa, hapa tuko deja mu, na hatulale mzuri. Tantoto tunalala kupori, tantoto tunalala kumugini, mupaka sa hii hatuko bien.
Oui, parce que ils sont aussi, ils ne sont pas contents, parce que avec tout ce qu'on a dit de ce village, ils disent que de temps à autre, ils peuvent revenir dans ce village. Alors, depuis lors, des fois, nous la passons la nuit dans la brousse. Voilà la vie que nous menons ici.
On va voir si les femmes sont aussi en colère.
Maman, Michael,
maman, chef. On va parler à la chef.
Elle a de chaque côté de la taille, on voit deux petits pieds minuscules. C'est les pieds du bébé qui est dans son dos.
Nous avons connu une situation jamais rencontrée partout au monde. C'est une situation très, 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 très triste.
Parce qu'il y a 284 personnes qui ont été violées.
Parce qu'il y a 284 femmes qui ont été violées.
Qui sont ceux qui ont fait ça?
C'était des FDLR. Et de Maïmaï. On ne connaît pas leur nombre, c'était vraiment comme des fourmis. Toute la forêt autour du village était pleine de militaires. Ils ont fait 4 jours, donc ils sont arrivés le vendredi. Jusqu'au mardi, ils étaient toujours dans ce village. Il y a ceux-là qui ont tenté de fuir dans la forêt. On les a poursuivis même jusqu'au niveau de la forêt.
Mais est-ce que vos frères, vos maris, vos pères vous ont défendu?
Comment
est-ce qu'on pouvait aider? Parce que tous les hommes, on les avait déjà pris, on les avait arrêtés, et puis tout ce qui a été pillé dans ce village. On a demandé à nos maris de pouvoir les prendre et les transporter pour eux dans la forêt.
D'accord. Alors si je comprends, madame, il y a d'abord eu un pillage. Ensuite, ils ont obligé les hommes à porter le butin dans la forêt. Et ensuite, ils sont revenus et ils ont violé leurs femmes.
Tout se faisait au même moment, tout se faisait simultanément. Il y avait ceux-là qui étaient en train de piller et il y a ceux-là qui étaient en train de violer au même moment.
Ce qui est invraisemblable, c'est qu'effectivement, il a raison le chef. Cette histoire, le monde entier le sait. Et c'est invraisemblable de constater que depuis, vous n'avez aucune protection et aucun soutien.
Nous, vraiment, c'est ce qui nous surprend. Vraiment, nous voulons seulement rien que la paix. La paix, rien que la paix. Mais qu'on enlève ces Rwandais ici, qui rentrent chez eux.
Parce que ce sont des Rwandais. Les FDLR, pour vous, sont des Rwandais.
Ce sont ces Hutus, là.
Ça fait rire tout le monde autour de nous, là, dans la Cassandra. La même, elle rigole un peu. Elle retrouve un tout petit peu le sourire.
Oui, c'est un peu abusif. C'est un peu abusif parce que les FDLR ne sont pas que des Hutus. C'est des Hutus, des extrémistes Hutus du Rwanda qui ont organisé le génocide des Tutsis du Rwanda. Mais ce n'est pas tous les Hutus.
Allez, je vais dire la maman.
Moi-même, quand ils m'ont pris au niveau de la forêt, ils m'ont piétiné sur la jambe. Et aujourd'hui, la jambe fait extrêmement mal. J'étais à la maison quand ils sont venus, j'ai dormi et puis ils sont entrés, ils ont forcé la porte. Ils ont commencé à me demander l'argent. J'ai donné tout ce que j'avais comme argent, que j'avais vendu. Et puis ils ont dit non, ce n'est pas suffisant. Ils m'ont couché et ils ont une relation sexuelle avec moi. Ils ont dit d'ailleurs, tu es une femme matelas, donc tu es géante, quoi, en d'autres termes. Ils étaient au nombre de 6 et tous les 6 ont couché avec moi. Et puis après les relations sexuelles, j'ai fui dehors. Et là où je suis parti, il y a d'autres qui sont venus qui m'ont commencé à me piétiner là-bas.
Nous avons fait 4 jours dans la
bosse. C'était
vraiment triste. Il pleuvait abondamment. Pour manger, il fallait chercher des feuilles et tout ce qu'il y a autour de nous. Et des sables qu'il fallait manger, et puis c'est comme ça qu'on a vécu. C'est une histoire
triste.
Ils sont partis comme ça, je suis resté sans habit, nu, et puis j'ai fait même tout en état nu. Et il y a une femme de bonne volonté de ce village qui m'a amené un pagne pour me couvrir.
Donc
après le 4e jour, on était dans la forêt, on a entendu des gens qui entendaient de crier, ils disaient voilà, revenez dans le village, revenez dans le village. Et quand nous sommes rentrés dans le village, toutes les portes étaient ouvertes, il n'y avait plus rien. Et donc c'est comme ça que nous sommes rentrés dans ce village, sans rien, sans quoi que ce soit.
Merci. Comment vous vous
appelez? Je m'appelle Machozi Goretti.
Marie Goretti. C'était une sainte italienne, Maria Goretti.
Hein? C'est dit quoi?
Faut bien qu'on se sourie un petit peu à la fin.
Et faut que tu aies comme un nom, tu as un nom.
Aïe, divique, naloulio, polimoi, te. Vicky, Ozali Mobali Wanga, you are more tata. Yebisanga ye bolingo loko la baninga bako salakai. Naoki sango balobinanga yolingi yobo yanga ye. Yamako yebi elibala yanga na yozali yatembe tata. Vike, ozali mobali wanga yuwa mote matata. Yebi sanga ye bolingo loko la baninga bako salaka. Na yoki sango balobi nanga yolingi yobo yanga ye. Yamako yebi ye libala yanga na yozali yatembe tata. Aimo kilibale boye mwana mama. Nale landenge nini vika yambanga ye. Nalo bandenge nini vika yambanga ye. Naseka ndenge nini josa yambanga ye. Mawana nga ye.
Que les femmes, bien va, que les femmes. Juste une question. Ça s'est passé fin juillet. Il y a 284 femmes qui ont été violées. Il y a certaines de ces femmes qui sont là avec nous. Nous sommes à la mi-novembre, nous sommes le 15 novembre. Et donc, parmi ces femmes, il y en a qui sont peut-être tombées enceintes. Vous le savez, ça?
Oui, il y a des gens qui sont enceintes.
Elle
se cache jusqu'à là.
Elle n'arrive pas
à dire.
Il y a un homme qui s'est approché, donc les femmes le repoussent.
Elles ne veulent pas se manifester jusqu'à là. Mais jusqu'à là, nous connaissons qu'il y a 3 qui ont été enceintes. Et nous continuons à les conseiller progressivement pour savoir exactement qui est concerné par ce problème de grossesse.
Alors, ces enfants n'auront pas de papa.
Kuko wa papa wa moi venye, banaona kama vilipitika, babibi hawa wakubipenda.
Il y a des papas qui ont accepté ces enfants.
Atachungo le mtoto, sagi si wale wengine wako mumu.
Ils vont les protéger comme tant d'autres enfants.
Katala na katala, basi, hauta mukaza.
Mais il y a d'autres qui sont catégoriques et disent pas question de cet enfant.
Donc pas question de la femme non plus.
Kuko wengine wenye walisha katala babibi hawa. Kujuya hii ubakaje yenye lipitika hapo.
Mais il y a même des certains hommes qui ont refusé leurs épouses.
Qui ont rejeté leurs épouses en disant elles sont impures.
Kila mtu na akili yake kuko mwenye anasema Munyarwanda.
Il y a des gens qui disent un Rwandais.
Hapana, siwezi changia mwanamke na Munyarwanda.
Moi partager la femme avec un Rwandais, non, je peux pas accepter ça, c'est inacceptable.
Il y a beaucoup de femmes qui ont été rejetées comme ça.
Bon, niko kwanza na 27 venye balisha kataliwa. Kwa ile 284.
Parmi les 284, 27 des gens ont été
rejetés par leur mari.
Ouais. Il y a une qui est là à côté de nous. Là. Toi aussi, tu as le même problème?
Toi aussi, toi ton mari t'a jeté.
Moi, par exemple, mon mari m'a rejeté, elle m'a abandonné. Je reste seule avec mes enfants et je dois les prendre en charge moi-même.
Combien d'enfants?
4 enfants. Moi, 5. 5 enfants.
5 enfants et le mari aussi t'a laissé?
Moi,
mon mari m'a répudié en disant que lui ne peut pas partager une femme avec quelqu'un qui a, ouais, qui a passé la nuit avec un Rwandais. Maman, on a vu la ville. La maman aussi, c'est la même chose. Moi-même, j'ai le même problème. Il m'a laissé avec mes petits-fils. Il m'a dit qu'il ne peut pas partager une femme avec les Rwandais.
C'est l'intimité même d'un groupe, si tu veux. C'est une façon de détruire un groupe, non pas en tuant, non pas en torturant, mais par l'humiliation. C'est vraiment un sacrilège. Et voilà, elles sont impures, quoi, pour leur mari, pour... Il va falloir beaucoup de courage entre vous, beaucoup de solidarité entre vous maintenant.
C'est pour cela que nous savons que même en vous parlant, nous sommes en train de nous sacrifier. Parce que la nouvelle peut arriver à ce même groupe armé, si demain ils reviennent, ils savent qui parle aux étrangers. Et donc cela pourra,
on n'a pas dit les noms.
Et cela pourra nous poser des problèmes très sérieux. Peut-être que demain ou après-demain, si vous reviendrez, vous allez rencontrer plutôt nos cimetières.
Mais
c'est ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils nous avaient déjà promis ça. Avant, il y avait des militaires de FARDC qui étaient ici. Et ils nous ont lancé des messages pour dire, les jours que vos militaires partiront, nous viendrons nous venger. Et voilà, c'est exactement ce qui nous est arrivé.
C'est ça, c'est-à-dire que vous étiez protégé par les FARDC, c'est-à-dire les forces gouvernementales. Et lorsque les forces gouvernementales ont cessé de vous protéger, sont partis, eux sont arrivés aussitôt. Mais depuis longtemps, ils vous menaçaient.
Oui. Si à tout coup,
notre fierté d'être maman aujourd'hui n'existe plus. Lorsque nous quittons dans ce village et allons dans notre village, tout le monde nous pointe des doigts, tout le monde nous discrimine.
Il
dit voilà ces femmes de FDLR, voilà, ils sont en train de passer là.
Donc,
depuis lors, on est tellement humilié, on n'a plus de considération au niveau de la société et ça nous fait extrêmement mal.
T'as vu, il y a une Jeep qui vient de passer à toute vitesse, sans s'arrêter. C'est celle de IMC.
IMC, c'est-à-dire USAID, c'est l'aide au développement américain, et ici, qui font un travail. On les a appelés à plusieurs reprises pour essayer d'avoir un briefing, d'être informés, etc. Ça a été non. On ne communique pas. Mais là, quand on vient sur le terrain, on voit que les habitants ici sont révoltés contre cette ONG financée par les États-Unis. Ils sont absolument, ça pourrait être financé par n'importe qui d'autre. On a une population qui a subi un crime particulier. Les femmes ont été collectivement violées dans ce village en l'espace de 4 jours. Au total, plus de 300 personnes. Il y a eu énormément de reportages, énormément d'informations qui circulent sur cette histoire qui choque, mais sans suite. C'est-à-dire que ces gens n'ont aucune protection aujourd'hui, aucune protection militaire, comme ça devrait être le cas, parce que les auteurs de ces viols sont autour de nous. Ils sont là dans la forêt, ils sont autour, et ils peuvent revenir n'importe quand. Ils menacent, ils ont dit qu'ils reviendront, d'autant plus que
eh bien, il y a toutes ces informations. C'est-à-dire que les informations qui circulent à travers le monde sont plus dangereuses que si on s'était tu. Ça, non seulement ça n'aide pas les habitants, mais en plus, c'est une menace supplémentaire.
Et puis surtout, ce qu'ils voient, ce qu'ils présagent, en tout cas, ce qu'ils devinent, c'est que le profit qui est tiré par les humanitaires et les médias de leur malheur.
Oui, parce que c'est des sujets qu'on vend ensuite, qu'on vend à des chaînes de télévision. Donc, ils finissent par comprendre le mécanisme de l'exploitation, non seulement par les humanitaires, mais aussi par les médias. Ok, allez, on
part et puis on a un passager en plus pour le retour.
D'accord, il est tout seul ?
Non, il est accompagné.
Deux personnes,
ça. On n'en prend que deux ?
Oui, deux.
D'accord. Bon, on va remonter à bord du Titanic. Parce que notre voiture s'appelle Titanic. Il y a un pare-soleil sur notre voiture. Titanic.
Selon le gynécologue Denis Mukwege, 500 000 femmes auraient été violées dans la région des Grands Lacs depuis 15 ans, dont 27 000 pour la seule année 2007. C'était un reportage avec Guy Vanctil, montage Mathias Barret et Agnès Lebotte. Merci à toutes les femmes de Louvongui, à Jacques Cahora, à Fiston, à Sylvie Vandenwilderberg et à Leocadio Salmeron de la MONUSCO. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission La Bâche, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter comme toute la série sur le Congo, sur laba.org, la-ba.org. Ronan Mahé, Rémi Quincez étaient à la technique aujourd'hui. Coy Nguyen et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte et Marina Touillez. Attends vos messages au répondeur de la base sujet au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Écoutez, et pourtant ce n'est qu'une infime partie de tous les millions d'euros que Euromillion met en jeu vendredi. Près de 43 millions d'euros. 43 millions. J'adore ce bruit.
Estimation ou garantie des gains à partager en un, voire règlement.
Euromillion. Il n'y a que Euromillion pour gagner autant de millions.
FTJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter présente Woody Allen et son New Orleans Jazz Band. En concert unique à Paris, au Grand Rex, le 2 avril à 20h30.
But last night, on the back porch,
retrouvez Woody Allen dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
16h et une poignée de secondes. On se retrouve demain à 15h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
En Côte d'Ivoire, différents témoignages font état de plusieurs morts aujourd'hui dans des affrontements entre le camp d'Alassane Ouattara et les forces loyales au président sortant Laurent Gbagbo. Selon plusieurs agences de presse, au moins 4 partisans d'Alassane Ouattara ont été tués par balles. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur la foule qui se dirigeait vers le siège de la radio-télévision ivoirienne. Le camp d'Alassane Ouattara, dont l'élection à la présidence a été reconnue par la communauté internationale, avait appelé ses partisans à prendre le contrôle du bâtiment défendu par des blindés. Amnesty International fait état de son côté d'un bilan d'au moins 9 morts. Et c'est maintenant autour de l'hôtel du Golfe qui abrite le QG d'Alassane Ouattara que se concentrent les combats. Des tirs à l'arme lourde se font entendre. Guillaume Soro, le premier ministre d'Alassane Ouattara, vient d'appeler la population à continuer la mobilisation contre le régime de Laurent Gbagbo. Et puis des combats sont à signaler également dans le centre du pays. Liberté conditionnelle confirmée pour Julian Assange. La haute cour de justice de Londres a rejeté l'appel du parquet britannique. Le fondateur de Wikileaks devra porter un bracelet électronique, être assigné à résidence, respecter un couvre-feu et verser une caution de quelque 280 000 euros. Plusieurs célébrités comme le réalisateur américain Michael Moore et le cinéaste britannique Ken Loach ont promis de l'aider à payer. Julian Assange attend une décision sur une éventuelle extradition vers la Suède. La justice suédoise veut l'entendre suite à 2 plaintes pour viol et agression sexuelle. De plus en plus de départements vigilance orange à la neige et au verglas. Ils sont désormais 34. La neige arrive par l'est avant de s'étendre au massif central et à la région Rhône-Alpes. Depuis 15 heures, la circulation des poids lourds est interdite sur l'autoroute qui relie Metz au Luxembourg. Et en attendant les flocons en Ile-de-France prévus à partir de ce soir, 16 véhicules blindés de la gendarmerie sont prépositionnés dans les départements de la Grande Couronne parisienne. Il s'agit d'éviter la pagaille et le blocage de milliers d'automobilistes sur les routes comme la semaine dernière. Le centre centre interministériel de crise sur les intempéries est actif depuis ce matin. Mais c'est surtout ce week-end que la situation risque de se compliquer avec les départs en vacances. Certains trains seront ralentis en raison des chutes de neige annoncées dans l'Est et en Rhône-Alpes. Et samedi, Météo France prévoit de la neige à nouveau sur une partie nord du pays. La grippe progresse tout doucement en France. Le réseau qui surveille son évolution note que les vacances scolaires et le froid peuvent influencer la propagation des virus et incite les personnes à risque à se faire vacciner sans attendre. L'activité grippale reste faible, mais elle est en hausse. Le nombre de cas a quasi doublé depuis deux semaines, passant de 42 à 77 pour 100 000 habitants. David Sénat, l'ancien conseiller de Michel Alliot-Marie à la chancellerie, est en garde à vue depuis hier. Il est interrogé sur son implication présumée dans les fuites au journal Le Monde dans l'affaire Bettencourt. Le tarif social de l'électricité va baisser au 1er janvier prochain. 625 000 foyers en France en bénéficient. Le rabais octroyé varie aujourd'hui de 30 à 50% du tarif normal et il devrait se situer après la baisse donc entre 40 et 60%.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends ce soir en Seine-Saint-Denis pour des enregistrements du jeu des 1000 euros à Bondy, à la salle André Malraux, à 20h30. Les sélections se font sur place à la même heure. À ce soir à Bondy.
France Inter, partenaire de l'exposition Dans le sillage des requins, à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Plongez dans l'univers fascinant des requins, de leurs cousines raies et chimères. Découvrez poissons vivants, naturalisés et fossiles. Une exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle. À retrouver dans le programme de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. France Inter. La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure comme tous les jours de Frédéric Lodéon et du Carrefour de Lodéon.
Carrefour de Lodéon.
Bonjour à tous, voici une émission dédiée à la musique de chambre, mais alors quel type de chambre me direz-vous? Parce qu'il y en a de plus ou moins grandes. Quand on entend une sonate jouée au violoncelle, ça va, s'il y a un clavier à côté ça peut aller aussi, mais si le clavier est un orgue, on peut se demander dans quelle chambre un orgue peut entrer. Mais il y a aussi différents types d'orgues gigantesques, Cavaillé-Coll, l'orgue de la Madeleine ou autres, des cathédrales allemandes, des petits orgues portatifs. Bon, évidemment la musique de chambre c'est assez vague. En tout cas, Jean-Sébastien Bach a écrit sa deuxième sonate pour viol de gambe, on va l'entendre jouer là au violoncelle, et puis il y a un orgue qui paraît assez modeste, assez discret pour entrer dans une chambre de proportions tout de même respectables. Thank you. Allegro de la deuxième sonate pour viol de gambe et clavier de Jean-Sébastien Bach, et cette très belle conversation était menée par Anne Belsma, violoncelle piccolo à cinq cordes, et Bob van Asperen qui joue un orgue qui a été fabriqué récemment à Utrecht en 1985. C'est très récent pour un orgue, et c'est un orgue à bahut, donc pas une énorme machine, bien sûr. Quand Mozart écrit une sonate pour violon et piano, c'est encore de la musique de chambre, mais le piano de Mozart, on pouvait le transporter très facilement. Deux personnes pas très costauds